franceinter.fr.
On retrouve tout de suite Patrick Liégibel, Nuit Noire.
Le poulailler d'Étienne, de Christine Van Acker.
Un pied en France, un pied en Belgique, Christine Van Acker, fille de batelier, navigue d'un genre à l'autre, poésie, roman, nouvelle, théâtre. Autant elle aime jouer avec le sens des mots, autant elle se méfie et dénonce ceux qui détournent leur sens à nos dépens. Cette « grande oreille », comme elle aime à se nommer, se bat pour promouvoir les auteurs et les fictions radiophoniques, combat difficile qui nécessite une belle énergie, mais lui laisse le temps d'écrire pour le plus grand plaisir de tous.
Ce soir, oh, ça va être difficile. Hein? Oui, j'ai beaucoup de boulot. Non, je sais. Mais toi aussi, tu... Comment? Non, toi, tu essaies de me prendre par les sentiments. Hein? Hein? Comment ça, c'est pas des sentiments? Le sexe, ma peau, c'est un sentiment comme un autre. D'ailleurs, je te trouve très sentimental ces jours-ci. Tu vois ce que je veux dire? Je me trompe? Hein? Bon, tu as gagné. Oui. Le dossier attendra. J'appelle ma femme. Je lui dis que j'ai un dossier à terminer ce soir et je passe. Ça ne fera jamais que le quatrième dossier en 15 jours. Oui, Muriel. Ouais, moi aussi. À ce soir, ma poule. Allô, Violette? Ça va, ma poule? Dis-moi, Michelet m'a encore planté. Et tu sais, le dossier Stoomlings, dont je t'avais parlé. Non, il le veut demain matin. Oui, je sais. Non, je ne me laisse pas marcher sur les pieds. Tu peux pas comprendre, les temps sont durs. Il faut rien lâcher. Moi, mais j'arrive dès que je peux. Non, t'inquiète pas pour ça. Je vais commander une pizza. Ah, ça vaudra pas tes pâtes au pistou. Mais bon. Oui. À tout à l'heure, ma poule. Hein? Bisous. Oui. Moi aussi. Louise, vous pouvez venir, s'il vous plaît.
J'arrive, monsieur.
Oui, monsieur.
Pourriez-vous m'apporter le dossier Stoomlings?
Tout de suite, monsieur.
Allô? Bonsoir, ma poule. Ça va? Ça va. Dis, j'ai un petit problème pour ce soir. Oui, je sais... Moi aussi. Faut comprendre, Laurence. Mais ma femme a invité quelques potes à la maison. Elle compte sur moi. Tu comprends? Hein? Tu comprends, hein? Hein? Tu m'entends? Où tu es? Alors, le réseau est pas terrible. Allô? Oui, moi aussi. Ouais, moi aussi. Non, je me débrouille pour venir dans la semaine. Ah oui. Oui, toi aussi, tu me manques. Laurence, tu m'entends? Non, j'ai dit toi aussi, tu me manques. Oui, je t'embrasse là où tu sais. Hein? Ma poule. À bientôt.
Voici le dossier, monsieur. Je l'avais mis sous la pile.
Eh bien, maintenant, il est au-dessus. Trouvez ça juste, vous, que ce soit toujours les mêmes qui se retrouvent derniers, hein? À partir de maintenant, ça va changer. Les derniers seront les premiers. Louise.
Oui, monsieur.
C'est très joli, cette jupe fendue. Elle vous va très bien, ma petite poulette.
Merci, monsieur.
Oh, si je me laissais tenter... Non. Non, non. Le dossier Stummlings d'abord. Je vais le survoler, fils, à ce truc. Faudrait pas que j'ai l'air d'un con si Violette me pose des questions là-dessus. Muriel, c'est moi. Muriel ? Mais t'es où ?
Tout prêt, mon chéri.
Mais pourquoi tu viens pas ouvrir ?
Étienne, j'ai un petit jeu à te proposer. Tu verras, tu seras pas déçu.
Un petit jeu ? J'adore ça, les petits jeux.
La porte est ouverte. Tu peux entrer. Tu n'as qu'à suivre mes instructions. Ah.
Je te sens venir, coquine. Ouais, qu'est-ce que je suis censé faire, là ?
À chaque fois que tu trouveras un élément de vêtement, tu en enlèveras un des tiens. Tu suis les vêtements et tu me trouveras au bout du chemin. Nue, complètement nue, offerte à toi, tout à toi. Maintenant, je te laisse. À très vite, mon chéri.
Ouh. Tu m'excites, ma poule. Bon, mais on n'y voit pas grand-chose là-dedans. Je vais essayer de pas me casser la gueule. Mais c'est pas celui que tu portais la semaine passée. Oh, très sexy d'ailleurs, ces petites agrafes qui sautent. Bon, bah, je retire ma chemise. Voilà. Putain, il fait froid. À gauche. À droite. À gauche. Yes! Des chaussures. Mais comment tu peux tenir avec des talons pareils, hein? N'empêche, quelle cambrure ça te fait. Bon, bah, j'enlève mes chaussures. Ah. Bon, bah, je vais continuer à quatre pattes. Le chien de madame est sur la piste. Une jupe. Et hop, un pantalon. Qu'est-ce que j'ai trouvé là? Alors j'enlève mon caleçon alors. Je sais que tu m'entends, mais où est-ce que tu te caches, ma petite poulette? Hein? Bon, je te préviens, il ne me reste plus que mes chaussettes. Oh, faudra bien me réchauffer après ça. Putain, mais qu'est-ce que c'est que ça?
Violette. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Putain. Muriel. Mais réponds-moi. Oh, ses yeux, mais qu'est-ce qu'ils ont, ces yeux? Elle n'est pas...
morte. Effectivement, oui. Quelle perspicacité, Étienne. Oh, le gentil toutou vient de tomber sur un os. Un beau nonos d'1m66, 55 kilos, rien que du bon. Hein. Pas trop de bras, ça va. Elle était bien foutue, ta femme, donc. Hein?
Muriel, mais qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Mais qu'est-ce que ma femme est venue faire ici?
Ça.
Et pourquoi ce jeu? Pourquoi je suis à poil, moi, et pas toi?
Si je t'avais demandé de te déshabiller après avoir vu l'état de ta pauvre épouse, tu l'aurais fait?
Mais je vois pas pourquoi je...
Oh, tu vas bientôt voir, mon coq, hein, mon coq déplumé. Louise, tu peux venir un moment?
Louise? Louise, mais qu'est-ce que Louise a à voir dans cette histoire? Louise, mais qu'est-ce que vous faites ici?
Alors, mon cher Étienne, je vois que le dossier Stumlinx vous passionne. Je suis venue pour vous donner un petit coup de main. Seule, vous n'y arriverez jamais, et votre femme vous attend.
Mais je... Oh putain, je deviens fou.
C'est bien ce qui t'arrive, mon cher Étienne. Tu deviens fou. Et c'est ce qu'ils diront tous quand ils vous trouveront tous les deux. Tuer sa femme avec ses dents. Non, mais tu te rends compte?
Quoi, mais qu'est-ce que
je
c'est?
Je lis déjà la une de New Detective. Un jeu sadomaso qui tourne au drame. Oh. Le chien a mordu si fort la poule qu'elle en est morte.
Oh.
La poule, comme tu dis, hein? Elle aussi, tu l'appelais ma poule, hein? Comme toutes les autres, n'est-ce pas? Toutes les autres poules, hein? N'est-ce pas, Louise?
Ah oui, ça, un vrai poulailler, hein, monsieur Étienne?
Oh. Laurence, tu peux venir?
Laurence? Mais comment tu as fait pour...
Oh, tu sais, il suffit de suivre les petites graines pour trouver les poules. Oh. J'ai d'abord trouvé Louise. Louise a trouvé Laurence. Oh. Laurence a trouvé...
Une véritable basse-cour. Je préfère ne pas en parler.
Oh. Nous avons préféré nous arrêter là, hein. N'est-ce pas, Louise?
Ah oui, un mi-temps n'y suffirait pas.
Mais qu'est-ce que Violette vient faire dans tout ça?
Elle n'a pas voulu marcher avec nous.
On était toutes d'accord, sauf elle.
Quand je lui ai proposé de venir chez moi, elle pensait juste à voir ma gueule, à savoir avec qui son mari la trompait. Et quand je lui ai parlé de Louise, elle s'est pas sentie bien. Oh. Alors, tu comprends, quand je lui ai parlé de Laurence...
Comment elle a pu croire à tes dossiers bidons, à tes rendez-vous d'affaires foireux sans rien soupçonner?
Ma femme m'aimait.
Mais nous aussi, on t'aimait, Étienne. Nous aussi, on était idiotes.
Oui, moi aussi, je t'aimais, Étienne. Même si j'étais aux premières loges, même si je savais... Moi, j'ai eu droit qu'à un petit coup vite fait dans les toilettes, c'est tout.
Moi aussi, juste un petit coup sur son bureau.
Oh, vous saviez que j'étais mariée, vous saviez que c'était juste pour... Violette, Violette... Mais pourquoi l'avoir tuée? Elle n'avait rien fait, elle.
Ah, elle n'était pas d'accord avec notre plan.
Votre plan, mais quel plan?
À ton avis, pourquoi tu te retrouves à poil ici, à quatre pattes comme un con?
J'ai froid.
T'inquiète, va, ça va bientôt chauffer.
Les filles, à votre avis, combien de poules peut supporter un coq?
Laisse-moi deviner, 10?
10? Ah non, un bon coq pourrait en assumer une quinzaine, au moins.
Si pas 20.
Peut-être plus, qui sait? Regarde celui-ci, oh, il a perdu ses plumes, hein. Il est tout rose, hein, mon nounou. Allez, amenez la colle.
Non, s'il vous plaît, arrêtez ce jeu stupide.
Tenez-le bien, hein, il faut en mettre partout.
Allez, lâchez-moi.
Arrêtez, hein, vous êtes folle.
Moins tu te débats, mieux ça ira, c'est pas obligé de frapper. Ce serait dommage d'abîmer notre si beau coq.
Ah, ça n'a pas été facile à trouver, hein. Un édredon bourré de plumes a fait l'affaire. Merci, Louise.
Oh, c'est bien naturel. De toute façon, cet édredon commence à devenir vieux. Il vous ira mieux, monsieur.
Mais arrêtez cette mascarade!
Vous avez de la gueule, dis donc, quel élégant!
Oh, y'a pas à dire, ça vous va bien que le costume. C'est tellement triste, un costume.
Alors, quelqu'un a pensé à la crête?
Je l'ai.
Non,
la voici.
Magnifique! Alors, t'es réchauffé maintenant? Ça va mieux, non? Hein? On n'allait pas te laisser prendre froid par cette saison, ma poule.
Moins 10 dehors.
Laissez-moi sortir! Au secours!
Mais personne te retient, Étienne. Mais tu peux sortir. Va, et va. Sors.
Récapitulons. Vous entrez chez votre maîtresse, elle vous a préparé un petit jeu de piste érotique, vous êtes à poil, disons sans plume, et subitement vous vous retrouvez nez à nez avec le cadavre de votre femme.
Violette, ma pauvre Violette.
Violette, votre femme. Ainsi qu'avec trois de vos maîtresses qui se seraient réunies pour vous jouer un sale tour et pour trucider Violette, Violette, votre épouse.
C'est bien ça, les salopes.
Le problème, monsieur, c'est que nous sommes allés sur les lieux. Aucune trace, ni de plume, ni de votre femme.
Hein?
Un cadavre ne disparaît pas comme ça. Nous n'avons trouvé aucune trace, ni de sang, ni de lutte, nulle part.
Vous aviez bu ce soir-là?
Mais je vous jure que je ne mens pas, je n'avais pas bu.
Vous aviez pris quelque chose, alors?
Je ne me drogue pas, monsieur. Ils ont dû se venger. Ils se sont aperçus qu'elles n'étaient pas mes seules poules, qu'il y en avait d'autres.
Vos poules?
Oui, c'est comme ça que je les appelle. Mes poules, c'est un petit nom affectueux.
Mmh. D'où le déguisement. Monsieur aime les femmes, à ce que je vois.
Je ne me suis pas déguisé. Elles m'ont humilié. Elles ont tué ma femme. Ma pauvre Violette, c'est affreux.
René, tu peux faire entrer madame?
Hein? Violette? Oh mon Dieu! Oh! Tu es vivante!
Étienne?
Oh.
Si je suis vivante, et pourquoi je ne serais pas vivante? Et qu'est-ce qui t'arrive, mon chéri? Et qui t'a fait ça? Je ne te reconnais plus!
Oh. Je me suis fait agresser. Des mauvais plaisants, ils m'ont...
Oh, pauvre Étienne. Mais qui a pu avoir cette idée bizarre? Tu connais les gens qui t'ont fait ça? Mais il faut porter plainte.
Ah, non, je sais pas. Je n'y comprends rien. Tu es vraiment vivante, Violette?
Mais bien sûr que je suis vivante. Qu'est-ce qui te prend? Étienne, tu es certain que tu es dans ton état normal?
Au dire de monsieur votre mari, il semblerait que vous ayez été morte, en d'autres temps, dans une autre dimension peut-être. Qui sait, un phénomène quantique. Quoi qu'il en soit, par un concours de circonstances que personne ne s'explique, il semblerait à présent que vous soyez revenue du bon côté du décor. Bienvenue parmi nous, madame la ressuscitée. Bon, vous savez, c'est assez banal, ce sont des choses qui arrivent. Certains donnent l'apparence de la mort, puis, sans prévenir, ils se redressent, respirent à nouveau et sortent de leur trou. N'est-ce pas, cher monsieur?
Je ne sais pas. Je ne sais plus. Je vais me réveiller. Oui, le réveil va sonner. Ce sera un nouveau matin. Un bon café, tout ça sera oublié. N'est-ce pas? N'est-ce pas? J'ouvrirai les yeux.
Oh! Ses yeux! Tes yeux, Violette!
Ne m'approche pas. Tu me fais peur. Oh. Pourrais-je vous parler, monsieur?
Oui, venez dans la pièce à côté.
Oh.
Mon collègue s'occupera du café de monsieur.
Je n'y comprends plus rien. Mon mari semblait aller très bien jusqu'à ce matin. Il m'avait téléphoné qu'il rentrerait plus tard. Un dossier, le dossier Stumlings, je pense. Puis le voilà dans cet état. C'est ridicule. Ces plumes. Mon Dieu.
Vous savez, madame, j'en ai vu de toutes les couleurs depuis le début de ma carrière, mais en 30 ans, c'est la première fois qu'on me ramène ce type d'enplumes. Jamais vu ça. Ah si. Quand j'étais gosse, mais uniquement dans un album de Lucky Luke, oui.
C'est pas le moment de parler de bande dessinée.
Je suis désolé, madame. Était-il surmené ces derniers temps? Un burn-out?
Pas plus que d'habitude. Il a toujours été très, très actif. Qu'est-ce qu'il va devenir? Qu'est-ce que vous allez faire?
Un peu d'isolement lui remettra les plumes en place. Pardon, je voulais pas...
Et après?
Nous le ferons examiner par un psychiatre. Je pense que ce sera nécessaire. Qui sait si son dérapage ne pourrait pas s'avérer dangereux pour les autres. Nous ne pouvons pas prendre de risques.
Et ensuite?
Il y a de très bons établissements pour ce genre de malade.
L'interné?
La décision sera entre vos mains. Entre vos mains et celles du psychiatre.
Ça sent bon, c'est quoi?
De la poule au pot, voyons.
La prochaine fois, je vous ferai mon coco vin.
J'aurais bien mis mon tailleur pied de poule, mais il me boutine un peu en ce moment.
Le prochain qui m'appelle ma poule.
Mais on sera toujours là pour toi, ma Violette. T'auras qu'à faire remplumage.com et allez hop.
Et pas question que ce soit toujours nous, les dames de la farce.
En cherchant un peu, je dois bien avoir un vieil édredon.
Et le jet de paille pour encore servir.
Allez, les filles à table.
Mais avant, tu nous refais le coup des yeux quand t'es morte.
Oh. Ah oui, oui, allez. S'il te plaît, refais-le, c'est trop drôle.
Oui, allez, Violette, la Violette, morte,
ah oui,
Violette, la morte, Violette, la morte, Violette, la morte.
Oh, bon, d'accord. Mais une seule fois, hein. C'est bien parce que c'est vous. Faut pas abuser des bonnes choses, comme me disait souvent mon cher Étienne.
Où est-ce que t'as trouvé ça? C'est horrible.
Moi, ça me rappelle le film, là, tu sais, un film avec Paul Meurice.
Ah, je sais, avec Simone Signoret.
Exactement, vous brûlez, les filles, vous brûlez.
Les diaboliques de Clouseau.
Oui, vous vous souvenez de la scène où il fait croire qu'il est noyé dans la baignoire et où il se relève comme un mort-vivant avec ses yeux renversés.
Des faux yeux en plastique, un coup monté avec sa maîtresse, sa femme est cardiaque et elle claque. Un crime parfait, sacrément bien joué.
On en trouve facilement dans les magasins de farces et attrapes des yeux comme ça. Effet garanti.
Je peux essayer tes lentilles?
Oh, horrible!
C'est horrible!
Allez, crever, ça s'appelle pour celles qui voudraient les mêmes. Bon, alors, personne n'a faim dans cette maison.
Ah, si.
Moi, je peux vous le dire, mourir, ça creuse. Hein. À table!
Et ton psychiatre, Violette?
Un amour. Très accommodant et beau mec. Il me mange dans la main. Vous devriez l'essayer. Allez, regardez-moi ça. C'est vrai que ça sent bon.
C'était Nuit Noire de Patrick Liégibel, Le Poulailler d'Étienne de Christine Van Acker, avec Hervé Pierre, Étienne, Joanna Nizar, Muriel, Céline Jorion, Louise, Guylaine Londez, Violette, Sarah-Jeanne Driot, Laurence, Bertrand Suarez-Passos, le policier. Bruitage, Bertrand Amiel. Prise de son, montage et mixage, Myriam Guillot, Manuel Couturier. Assistante à la réalisation, Laure-Hélène Planchet. Réalisation, Pascal Deux. Dans un instant, une seconde nuit noire, Finir le travail, de Marin Ledin.
Everyone knows that rock and roll is cold. Everybody likes to talk. Everybody likes to talk. Ooh la la, ooh la la, ooh la la la, ooh la la.
Patrick Liégibel. Finir le travail de Marin Ledain.
Né en 1975, Marin Ledain est romancier. Il a déjà publié une dizaine de romans, dont Au fer rouge, L'homme qui a vu l'homme, Dans les ventres des mers et La guerre des vanités. Paru en 2012, son roman Les visages écrasés, grand prix du roman noir 2012 du Festival international du film policier de Beaune, est en cours d'adaptation cinématographique. Docteur en sciences de l'information et de la communication, Marin est également l'auteur d'essais, dont « Pendant qu'il compte les morts » et « La vie marchandise ». C'est sa première nuit noire.
La pointe du fleuret pénétra violemment le tuyau de béton. Des crissements stridents recouvrirent le vacarme du marteau-piqueur, rebondissant contre les parois du conduit d'évacuation. La température ambiante avoisinait les 34 degrés Celsius. Les rats qui pullulaient habituellement dans cette partie des égouts avaient fui les lieux au premier coup de burin. L'homme qui maniait l'engin, les genoux dans la merde, se nommait Malati. La vingtaine, muscles saillants, mâchoire carrée et nuque de taureau. Il portait un bleu de travail et des bottes. Autour de sa taille, un baudrier auquel pendaient ses outils et le casque réglementaire. Simonin, de 5 ans son aîné, observait la manœuvre. La proximité d'une conduite de gaz le rendait nerveux. Il se tenait accroupi, 2 mètres en arrière, la feuille de route plastifiée dans une main, une lampe torche dans l'autre.
Ça y est, je l'ai eu.
Mais merde, tu pourrais prévenir.
Bon sang, ce bouchon m'a donné du fil à retordre.
Ah, quelle infection.
5 en plastique, lambeaux de tissu et d'éjection sédimentée. Les gens balancent vraiment n'importe quoi dans leurs chiottes.
Verdict?
Faut tout changer.
Ok, combien de temps?
2 jours de boulot, peut-être 3.
Merde. Bon, je monte prévenir Droop.
Ouais.
À l'exception de quelques rares piétons, le cours de la Libération était désert. Grenoble dormait encore. Plus pour longtemps. Après un rapide coup d'œil, Simonin se hissa hors de la bouche d'égout, prit appui sur le tampon et se redressa. Face à lui, l'immeuble de 7 étages dont les tuyaux d'évacuation des eaux usées s'étaient obstrués au cours de la nuit de samedi à dimanche. Caves et garages étaient noyés dans une piscine nauséabonde qui atteignait 1 mètre par endroit. L'ouvrier retira ses gants, sortit son portable en s'efforçant de ne pas le salir, et composa le numéro de leur responsable. Surnommé Droop, à cause d'un accident cardiovasculaire qui lui avait paralysé la partie gauche du visage 2 ans plus tôt, le conducteur de travaux s'appelait en réalité Hervé Haussmann Würtz, un nom imprononçable qu'aucun employé n'utilisait jamais. Personne ne répondit. Agacé, Simonin hésita à laisser un message avant de raccrocher. Il alluma une Lucky Strike Light et contacta le secrétariat de la boîte. La standardiste, une jolie brune prénommée Judith, décrocha à la 10e sonnerie.
Allô Judith ?
Oui ?
Je peux parler à Droop ?
Il est mort.
Quoi ?
On l'a retrouvé pendu dans son bureau.
Non.
Et il y avait un mot sur la porte. Il accuse la direction de harcèlement. Sa femme est là avec son beau-frère et il menace de porter plainte. Il paraît qu'il était sous antidépresseur. Il voyait un psy depuis 6 mois. Sa femme raconte qu'il avait essayé d'avaler du Xanax.
Passe-moi le chef de secteur.
Il est avec les gendarmes. Je peux pas le déranger maintenant.
J'ai besoin de savoir ce que je fais pour mon chantier.
Tu veux que je lui signale ton appel ?
Ouais, c'est ça, merci. Dis-lui de me rappeler en vitesse.
En bas, l'odeur de merde semblait avoir redoublé. Simonin rajusta son casque et s'enfonça dans le boyau en se maudissant d'avoir oublié ses gants. Quand il parvint sur le lieu d'intervention, Malati avait presque terminé de dégager le conduit. Simonin éteignit le compresseur et le rejoignit.
Hé, hey, j'ai presque fini.
Droop s'est suicidé.
Qu'est-ce que c'est que ces conneries ?
Je viens d'appeler la boîte. Il y a les flics là-bas, il s'est pendu, il a laissé un mot à l'attention du directeur.
Merde.
Comme tu dis.
Il avait des gosses, non ?
Ouais, je crois.
Vraiment moche.
Enfin, ça va, on va pas le pleurer non plus. Droop était rien qu'une belle saloperie. Tu sais bien. Jamais content de notre travail, jamais de soutien auprès de la direction en cas de coup dur. Jusqu'à 6 ou 7 interventions par jour, parfois plus. Et pas un mot de remerciement pour le travail bien fait.
Et ces portables à la noix qui fonctionnent jamais sous terre. Des mois qu'on en réclame des plus adaptés.
Simona repensa à Sonia, 4 heures plus tôt, quand son téléphone professionnel avait sonné.
C'est pour le boulot.
Quelle heure il est ?
3h du matin.
Oh, il pourrait nous laisser tranquille le week-end.
Ça doit être une urgence.
Allez, laisse sonner, pour une fois. Tu m'avais promis une grasse matinée.
Tu sais bien que c'est pas possible.
Je te promets de m'occuper de toi.
Chérie.
T'auras qu'à dire que ton portable ne marchait pas.
Mais tu sais très bien que ça sera payé en heure sup. On a besoin de cet argent.
Fais chier.
Patron ?
Même pas à son compte.
Ok.
En plus, on est réveillé à 3h du matin.
D'accord, j'arrive.
Tout ça pour un salaire de merde.
Simona entendait encore le long soupir que Sonia avait poussé avant de se retourner vers l'autre côté du lit, en ironisant sur sa paie, sur ce qu'il pourrait se mettre dans les poches s'il était à son compte, comme elle le lui réclamait depuis des mois. Il se revit, quittant la chambre sans un bruit, comme un voleur. Sonia faisait des efforts, il le savait, et elle méritait mieux que ce qu'il pouvait lui offrir pour le moment. Pourtant, elle devait s'en contenter, non ?
4 ans que je bosse sous sa responsabilité. Tu sais combien d'augmentations j'ai pu avoir grâce à lui ?
Non.
Une seule, putain. Une seule en 4 longues années à nettoyer la merde des autres.
T'exagères.
Mais tu sais très bien que c'est la stricte vérité.
Il y a les primes tout de même.
Mais parce que je bosse bien. Parce que ça, on peut pas me l'enlever. Heureusement que je touche une prime quand on m'oblige à me lever un dimanche matin à 6h pour déboucher les chiottes. T'en as pas marre, toi, de ces horaires à la con ?
J'ai fait un choix.
Non mais attends, t'appelles ça choisir ?
Écoute, j'ai pas envie de parler de ça maintenant.
Parlons-en, au contraire. Après tout ce qu'il nous a fait endurer, t'es prêt à prendre la défense de cette pourriture de Droop ?
J'ai pas dit ça.
Ce type était un tyran, il se défoulait sur nous.
Écoute, il est mort. On est peut-être pas obligé de cracher sur son cadavre, non ?
Je rêve.
Faut croire qu'il en bavait plus que nous.
Possible.
Allez quoi, tu sais bien qu'il gagnait la même chose que nous et qu'il était sur le pont 6 jours sur 7. C'est la direction qui impose les règles et les cadences, pas lui. Il faisait qu'appliquer les consignes.
Toi, tu sais quelque chose.
Simonin se raidit et le dévisagea. Les propos de Malati l'étonnaient. Malgré la pénombre qui régnait dans le conduit, il lui semblait que ses traits étaient crispés.
Merci. J'ai passé mon évaluation annuelle lundi. Avec la conductrice des travaux.
Aliente ?
C'est ça, Karina.
Une grosse fin.
Je l'ai un peu draguée.
Tu rigoles ou quoi ? Elle a l'âge de ta mère.
Disons que j'ai essayé de me mettre en avant. Alors j'ai chargé de roupe.
C'est-à-dire ?
Bah, à la totale, j'ai balancé tout ce que je savais. Je suis allé raconter qu'il gonflait nos heures d'intervention et les siennes. J'ai aussi parlé des petits travaux qu'il faisait au black.
Et elle a réagi comment ?
Elle a fait l'étonnée, elle a pris des notes.
Bah, où est le problème alors ? Tu sais aussi bien que moi qu'il magouillait sur le dos des réparateurs, non ?
Je voulais juste lui montrer que j'étais pas le genre de mec à me laisser faire, même si j'étais encore qu'en CDD. Un peu pour faire le malin, un peu aussi parce que j'en ai marre de tout ça. Si je tiens bon, c'est uniquement pour le fric.
Toi ?
Droop m'en a fait bouffer depuis que je suis là. Ma période d'essai ressemblait plus à un bizutage qu'à une évaluation de mes compétences. Mais franchement, je m'en veux d'être allé baver sur lui à la première occasion. C'était pas correct. Karina est la supérieure de Droop. C'est la dernière personne à qui j'aurais dû parler de tout ça. Entre collègues, on est supposé se soutenir, pas se tirer dans les pattes. Si ça se trouve, c'est à cause de moi.
Mais non, t'y es pour rien, crois-moi.
Ouais, peut-être.
Y'a aucun doute. Je t'assure.
Je sais pas. Je crois que c'était un homme plus fin qu'il y paraissait.
Fin ? T'es sûr qu'on parle de la même personne,
là ? Ouais. J'ai eu l'occasion de discuter plusieurs fois avec lui. Il avait d'autres projets. Il mettait de l'argent de côté pour quitter l'entreprise. Et ouvrir un petit commerce. Droop était pas un carriériste. Il attendait juste son heure. Son côté cynique, c'était qu'une façade.
Quoi ?
T'étais au courant pour sa tentative de suicide ?
Non.
C'est arrivé il y a un mois à peu près. Droop a obtenu un entretien avec Di Florio, le chef d'exploitation, pour lui demander une mutation. Il avait appris qu'un poste de responsable d'urgence se libérait et il s'était proposé. Sur le coup, Di Florio a laissé entendre que c'était d'accord. Puis sans raison, le surlendemain, il l'a envoyé en intervention sur le pire chantier de la ville, avec moi comme seul réparateur. Alors qu'on aurait dû être au moins trois de plus.
Le petit hôtel particulier aménagé en squat qui avait été vidé par la mairie de Saint-Martin-d'Air à grand renfort de CRS.
C'est ça, ouais. Les conditions de travail étaient dégueulasses. Il y avait des flics qui barraient la rue et les squatteurs qui avaient été virés nous insultaient en nous traitant de collabos.
J'ignorais que c'était Droop qui supervisait les travaux.
Il supervisait que dalle. Il était avec moi dans le trou, les mains dans la merde, à péter des canalisations pour que les gamins reviennent pas sitôt les CRS partis.
Mais c'était pas son boulot.
Di Florio l'avait rétrogradé. Sans même l'avertir.
Il voulait peut-être le mettre à l'épreuve ?
Tu parles. Droop l'a tout de suite appelé pour faire le point. Di Florio a fait comme s'il avait jamais été question qu'il monte en grade. Il a même accusé d'être un menteur.
Et qu'est-ce qui s'est passé ?
Droop est devenu dingue. Il a attrapé une masse, il a tapé dans tout ce qui tenait encore debout. Les murs, les cloisons, les fenêtres, les portes, même le plancher. Il s'est défoulé un bon quart d'heure.
Putain.
Puis il a quitté le chantier en gueulant qu'il avait besoin de prendre l'air. Il est revenu une heure plus tard, ivre mort. Il n'arrêtait pas de répéter qu'ils allaient payer, dit Florio comme les autres, que ça allait leur coûter un maximum. Puis il a sorti une boîte de Xanax. Moi je lui ai sauté dessus pour l'en empêcher. Il avait déjà avalé la moitié de ses saloperies. Il a fini par tomber dans les vapes. Alors je l'ai conduit aux urgences.
Et après ?
En fouillant dans ses poches, je suis tombé sur son portable. J'ai appelé sa femme pour la prévenir, puis je suis rentré me coucher. Le lendemain, il est arrivé au chantier vers 2h de l'après-midi, comme si de rien n'était.
Et vous en avez jamais reparlé ?
Ni lui, ni moi, ni personne. Je savais qu'il était fragile. J'ai quand même joué au con. Putain. C'est peut-être à cause de moi que...
Malati ne termina pas sa phrase. Simonin savait tellement de choses que Malati ignorait. À commencer par cette conversation entre Di Florio et le directeur que Judith lui avait rapportée la veille. Une conversation au cours de laquelle il était clairement dit que la boîte allait procéder à des licenciements dans le corps des réparateurs. La société était en cours de rachat. Droop et les quatre autres conducteurs de travaux étaient chargés de repérer les candidats au départ. Une première liste de 11 noms circulait pour 10 licenciements définitifs. Ceux de Simonin et Malati en faisaient partie, mais ils figuraient tout en bas de la liste. L'un d'entre eux pouvait encore être sauvé, mais la décision n'avait pas encore été prise.
Voilà ce que je sais.
T'en es certaine?
Oui.
Putain.
Ils ont longuement hésité, tu sais. Tous reconnaissent que vous travaillez bien tous les deux, mais ils vont devoir choisir.
Simonin n'avait pas parlé à Malati de son échange avec Judith. Il avait tout de suite compris l'avantage que lui donnait cette information. Il ne pouvait se permettre aucun faux pas s'il voulait garder son emploi. À présent, avec le suicide de Droop, les choses étaient différentes. Sa mort laissait une place vacante. Simonin et Malati pouvaient être tirés d'affaire tous les deux. 8h30. La deux fois deux voies ne formait plus qu'une succession de voitures entre lesquelles se faufilaient en slalomant vélos et scooters. Le soleil s'était installé dans l'axe de l'avenue. Son portable vissait à l'oreille. Malati fumait une cigarette assis sur le bord de la bouche d'égout, les pieds balançant dans le vide. Simonin alluma une Lucky et s'avança. Malati raccrocha au moment où il le rejoignit, après un « Je vous remercie, monsieur le directeur », empreint d'enthousiasme. Les deux hommes échangèrent un regard, puis Malati fit signe à Simonin qu'il descendait récupérer les outils, avant de sauter dans le trou et de s'enfoncer dans les profondeurs du tunnel.
Tu viens m'aider ?
J'arrive. Alors ? Il te voulait quoi, le directeur, tout à l'heure, au téléphone ? C'était à propos de Droop ?
Ouais, enfin, non. Mon salaire est doublé.
Comment ça ?
Il me propose le poste de Droop, un contrat à durée indéterminée et une prime.
Et t'as accepté ? Je vois. T'étais au courant pour la liste des 11 noms, c'est ça ?
Bien sûr.
Et pour moi ?
C'est fini. Je prends la place de Droop. Mais toi, t'es licencié quand même.
Ils devaient conserver l'un de nos deux postes. Judith m'a dit qu'ils hésitaient. Avec celle de Droop, ça fait deux places à prendre, non ?
Judith, elle a mal compris. Ils doivent en virer 10, quoi qu'il arrive. C'est pas une question de poste de travail, c'est une affaire de ligne comptable. Allez, fin de l'histoire. Maintenant, on range tout ça, et puis tu me remettras ton badge et ta ceinture à outils.
Je ne crois pas, non. Tu sais, ce boulot, j'en ai vraiment besoin. Sonia me le pardonnerait pas.
Écoute, le prends pas comme ça. J'ai reçu des ordres.
Tu m'as pas bien compris.
Comment ça ?
Tout est fini, t'as raison, mais pour toi, pas pour moi. Disons qu'il va y avoir une légère modification dans les lignes comptables.
Qu'est-ce que tu racontes ?
Désolé.
Simonin inspira lentement et se pencha sur Malati pour s'assurer qu'il ne respirait plus. Il leva ensuite la pioche et asséna un coup sec sur l'une des conduites courant sur la paroi qui se fissura et laissa échapper un sifflement sinistre. Une forte odeur de gaz ne tarda pas à se répandre dans l'atmosphère exiguë du tunnel. Simonin attrapa le marteau-piqueur et remonta calmement à la surface avant de remettre la plaque d'égout en place et de rentrer chez lui.
C'était Nuit Noire de Patrick Liégibel. Finir le travail de Marin Ledain. Avec Laurent Natrella, le narrateur, Julien Lucas, Malati, Florent Houlier, Simonin, Françoise Cousin, Judith, Pauline Ziadet, Sonia. Bruitage, Bertrand Amiel. Prise de son, montage, mixage, Myriam Guillot, Manuel Couturier. Assistante à la réalisation, Laure-Hélène Planchet. Réalisation, Pascal Deux. Une émission que vous pouvez réécouter et podcaster sur franceinter.fr.